tournés vers lui, ce qu'ils firent aussitôt. Alors, de son balcon naturel dans la falaise qui dominait la route, François fit sur eux un large et généreux signe de croix. Il leur sembla que la montagne entière les couvrait de sa bénédiction, et, pleins d'une joie merveilleuse, ils regagnèrent leur province. À la Portioncule, François trouva un chapitre réduit. Les frères étaient venus beaucoup moins nombreux qu'à l'ordinaire, car on avait institué des chapitres provinciaux. Rien ne ressemblait moins à une fête que ce maigre rassemblement. Faisait surtout défaut la joie des premiers jours, cette allégresse des retrouvailles et leur gai bavardage. Quelque chose avait changé. Quelqu'un manquait, qui pourtant était là, mais absent, mais perdu dans le groupe. Un petit frère comme les autres, silencieux. Que se passait-il en lui? Des décisions étaient prises. 9 frères seraient envoyés en Angleterre. Le terme d'ordre circulait à la place de fraternité, et comment n'en aurait-il pas souffert? Ordre sonnait comme un langage militaire. Dans fraternité, il y avait l'amour. Entre les deux, quel rapport? On ne parlait plus d'amour. S'était-il trompé? Avait-il mal compris ce que lui demandait le Seigneur? Mais non. Cela n'était pas possible. Le Christ lui avait dit dans son cœur que sa règle était bonne. Les hommes l'avaient déchiré. Quelqu'un. Grandeur et misère de frère Élie. Quelques jours plus tard, Élie, se trouvant avec François au couvent de Foligno, voulut lui parler. Mais François détourna la tête. Surpris, le ministre passa de l'autre côté et fut aussitôt gratifié d'une nouvelle volte-face. Une partie de la journée se passa en dérobade de ce genre chaque fois qu'ils se croisaient, jusqu'à ce qu'Élie, le voyant à l'écart, lui toucha la manche et le supplia de lui dire quel grief il avait contre lui. La situation était un peu étrange et légèrement comique, mais elle va cesser brusquement de l'être. N'est-il pas curieux de voir le ministre général de l'ordre franciscain humblement demander à un frère la faveur d'une réponse? Mais il y a ceci qu'on ne doit pas oublier. C'est qu'Élie aime François de tout son cœur, et que cette amitié va jusqu'à la vénération. Homme curieux, cet Élie de Cortone, comme on l'appellera, chef d'une véritable armée qui ne cesse de croître. De quoi peut avoir peur un personnage déjà considérable? François le sait et ne le dit pas. Pris d'inquiétude, Élie insiste avec force. Le silence de François finit par devenir effrayant. Élie demande une dernière fois. Pour François, les limites de la charité sont atteintes. Il déclare tout net. Élie, tu te damnes. Ces mots épouvantables eurent un effet terrible sur le ministre général. Ses péchés étaient-ils si énormes? Pécheur, il l'était comme tout le monde. Où était la pitié de Dieu? Néanmoins, François tenait bon. Ce que Dieu lui avait fait voir concernant Élie était-il si alarmant? L'histoire nous en donne le détail. Le désir fou de la puissance devait dominer sa carrière. Mais comment ne pas y céder quand on devient le confident écouté d'un pape et d'un empereur? Déjà conseiller d'Hugolin, il devait devenir celui de Frédéric II, et par 2 fois maître absolu de l'ordre des frères mineurs. Architecte de talent et grand bâtisseur, sa vie s'écoulera dans de belles demeures comme celle qu'il se fit construire à Cortone et dans le haut de la ville et qu'on a laissée de nos jours dans un état désolant d'abandon. Avec un chef renommé, une toque de premier ordre, frère Barthélemy de Padoue, il aura une table fameuse pour la délicatesse de sa chair. De trop élégants jeunes pages attachés à sa maison, des chevaux harnachés d'or. Ce n'est pas pour lui qu'il tient à cet apparat, mais pour ce qu'il représente. Il est conscient de l'importance de son